bien, on va commencer par une des questions qui fâchent. Quel est le droit des auteurs en numérique?
Mais le micro n'en revient pas. Il vient de s'en prendre un coup. Ah oui, si on commence par celle-ci de questions, ça va être intéressant. Je sais pas, tu as envie de répondre, Jérôme?
Oh bah non, c'est toi l'auteur. Hein. Moi, je suis humble éditeur.
Alors, les auteurs, bah, quel droit ils ont? Depuis le 1er mars 2013, ils ont le droit de fermer leur gueule. Et d'encaisser des sommes dérisoires qui sont de l'ordre de l'aumône, pendant que d'autres s'engraissent allègrement. On les appellera nos amis les éditeurs, nos amis la BNF et nos amis l'État. Pardon, j'ai oublié le pire dans la chaîne, nos amis les diffuseurs-distributeurs, qui, eux, tout seuls, quand même, bon, même dans le numérique, déjà sur le papier, ils prennent 55% à peu près, en moyenne. Dans le numérique, là, ils arrivent à ne nous prendre que 40%. Mais c'est sympa. Le numérique, vous devinez bien qu'en termes de fabrication, en termes de diffusion, en termes de distribution, les coûts sont nettement moindres que l'objet papier. J'imagine que vous savez à peu près tous que du vent fabriqué avec des 1 et des 0, ça ne se stocke pas. Le coût de fabrication, il est une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le fichier propre, et qu'on peut d'ailleurs le transformer dans n'importe quel format numérique. Grosso modo, il s'est écoulé une bonne journée, là, vraiment, pour quelqu'un qui est très très mal équipé et très tatillon, il y a une journée de travail pour créer un livre numérique. Il faut en général un an pour écrire un bouquin, c'est la moyenne. Un roman. Voilà. Et pourtant, les éditeurs nous proposent allègrement et gentiment de travailler dans les mêmes conditions que sur le livre papier. Bon, je sais pas, j'en sais rien. En moyenne, en France, sur le papier, on touche 8%. Bon, on nous propose gentiment 8% aussi sur le numérique. Alors 8%, ça veut dire qu'on est les gens qui gagnons le moins d'argent sur un livre. J'ai déjà dit que la diffusion et la distribution se taillaient la part du lion. Mais l'éditeur, lui aussi, ça va, 25% à peu près, si tout va bien. C'était pas du tout la question que tu me posais, hein. L'autre. Mais ça fait rien, je parle
de questions que je vais te poser après.
Alors je vais arrêter ma réponse là. Je suis sûr que tu as quelque chose à ajouter.
Oui. Voilà. Il y a les bons et les mauvais éditeurs. Alors à quoi on reconnaît un bon et un mauvais éditeur? Eh ben, il y a. Vous ne pouvez pas. Enfin, oui et non. Non, mais globalement, il y a les gros groupes d'édition comme Gallimard, Flammarion, même si c'est le même maintenant, Hachette et compagnie, qui effectivement offrent des conditions assez scandaleuses sur le livre numérique. Et puis il y a les petits éditeurs, alors là je prêche pour ma paroisse, qui discutent avec leurs auteurs, qui discutent avec des gens comme Yann, et qui essayent d'élaborer un contrat qui soit un tantinet plus équitable pour tout le monde. Et c'est une nécessité, une obligation pour nous, à la fois. Enfin, il y a plein de choses. C'est qu'en tant que petit, on peut discuter, on peut s'adapter. Et c'est une obligation pour nous, parce que les conflits avec les auteurs, bah, sans les auteurs, il n'y a pas de livre. Donc, autant qu'on cause, quoi. Donc, voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur ce que disait Yann, il y a 8 à 10% sur le prix du papier pour un auteur. Chez nous, sur un livre numérique, il y a pour un auteur entre 30 et 50%. Donc, voilà, sur un livre numérique. En fait, la différence se fait au niveau de la diffusion. Parce que quand vous êtes sur Amazon, évidemment, il n'y a pas le même pourcentage que ce que vous touchez quand vous vendez en direct sur votre site internet. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, et même pour nous éditeurs, et surtout pour nous éditeurs, c'est que du coup, ça amène tout un tas de discussions et des contrats différents. Et en même temps, on sait que ça va encore évoluer. Donc du coup, on a des contrats qui sont 2 ans renouvelables par année. Parce que il y a à l'instant T, là, en 2013, ce qu'on fait aujourd'hui en numérique, mais alors en 2015, en 2016, comment ça va se passer exactement, on ne sait pas. Donc voilà. Donc l'opposition, nous, il n'y a pas d'opposition. De toute façon, si un auteur n'est pas content, il ne signe pas, donc on ne fait pas le livre, ma foi. Et c'est bien dommage. Mais voilà. C'est pas tout ça.
Mais justement, donc, tu parlais de différence de coût pour le livre, etc. Bon, on va passer à une autre question, parce que celle-là, je viens d'oublier.
Ah.
Quel serait, selon vous, le prix idéal pour un livre électronique?
Voilà, mais je crois qu'on a à peu près la même opinion là-dessus. C'est pour ça que démarrer par droit d'auteur, ça me fait un petit peu bizarre, parce que si on comprend bien, pas bien les mécanismes globaux, les enjeux qu'il y a là-dedans, c'est le droit des auteurs, de toute façon, c'est toujours celui de fermer sa gueule, sauf s'il signe le contrat. Enfin, par contre, pour le prix idéal d'un livre numérique, c'est très très clair. On a aujourd'hui deux repères extrêmement fiables, le grand format et le poche. Les deux étant à peu près liés au coût de fabrication et à la mise en œuvre de diffusion-distribution. Donc on a, on va dire en moyenne, le grand format doit être aux alentours de 20-21 euros, je pense, sur l'ensemble des bouquins grand format. Et la moyenne du poche doit être à 8 euros, si je ne m'abuse, grosso modo ça. Donc l'idéal, le livre numérique n'étant pas un objet, étant quelque chose de complètement immatériel, c'est-à-dire que ce qu'on achète, c'est du vent. C'est pour ça que je parlais d'un souffle de 1 et de 0. Ben, déjà pour commencer, de base, il devrait être moins cher que le produit matériel. Le coût étant le moindre. Donc, moins cher que le poche. Pour moi, l'idéal, c'est ça, c'est être moins cher que le poche. Et c'est de préférence être moitié moins cher que le poche. Parce qu'encore une fois, est-ce qu'on achète réellement un livre numérique? Est-ce que quelqu'un... un acheteur va posséder quelque chose. Alors, d'une part, il ne possède pas d'objet, mais est-ce qu'il possède vraiment est-ce qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut de son livre, du livre qu'il a acquis? Moi, si j'achète un livre papier, si j'ai envie de l'offrir à quelqu'un, il n'y a aucun problème. Si j'ai envie de le revendre, il n'y a aucun problème. Si j'achète un livre numérique, si j'ai envie de l'offrir à quelqu'un, si je respecte la loi telle qu'elle est en place aujourd'hui, je n'ai pas le droit. Si je veux le revendre sur eBay, j'ai pas le droit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que le coût soit très bas. Il y a une autre raison excellente, je te passe la parole juste ensuite, une raison excellente pour que le prix soit bas, c'est ça évitera peut-être un peu ce qu'on appelle abusivement le piratage, qui est donc de la contrefaçon. Moi, celle qui me gêne, c'est la contrefaçon commerciale, c'est celle qui, non pas qu'on nous pirate, on le sait. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes de gentils petits pirates et nous n'achetons pas toujours tout. Il nous arrive de tester avant. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui ne nous empêche pas d'être de gros consommateurs culturels comme tous les bons pirates. Donc, mais pour limiter le piratage, il n'y a qu'une seule solution, c'est de réduire les coûts. Parce que si on commence ce qui se fait, ce qui se pratique en France depuis maintenant 2 ans, à balancer des ouvrages numériques au même prix que le livre papier, donc c'est à peu près le cas chez toutes les grosses machines éditoriales, c'est très clair. Quelqu'un va mettre le fichier à disposition gratuitement pour tout le monde et puis il aura bien raison. Après, si le prix est suffisamment bas pour que ça ne demande pas un effort financier colossal que d'acheter un bouquin même dont on ne connaîtrait rien, après tout, quand on achète un livre papier, qu'est-ce qu'on sait dessus? Ce qu'on a lu sur le quatrième de couverture, ce qu'on a vu sur la couverture, le nom d'auteur et le titre.
Globalement, alors deux choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la propriété des livres numériques. Il y a eu, il y a 3-4 ans, un scandale avec Amazon qui, aux États-Unis, a vendu. Alors je ne sais plus si c'est 1984 ou le meilleur des mondes. Et 1984, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les droits. Et donc du coup, en une nuit, ils ont retiré des Kindle de tous les gens qui avaient acheté le meilleur du monde, le meilleur des mondes. Donc les gens avaient acheté le meilleur des mondes le matin, et puis le lendemain, ils ne l'avaient plus dans leur Kindle parce qu'Amazon n'avait pas les droits. Voilà, ça donne une... Imaginez quelqu'un qui vient chez vous la nuit et qui vous retire un livre de votre bibliothèque parce que finalement, il n'avait pas le droit de vous... C'est quand même un peu le bordel. Sur le prix, et puis c'est génial que ce soit 1984 quand même, ça aurait été Tchoupi et les Schtroumpfs, on aurait pu rigoler, mais enfin 1984. Sur le prix, bon, globalement, ce qui coûte, un livre numérique effectivement coûte beaucoup moins cher à fabriquer qu'un livre papier parce qu'on élimine l'une des composantes les plus importantes qui est la composante de l'imprimeur. Donc ça, c'est le premier point. Donc il est logique qu'il y ait moins de frais, beaucoup moins de frais là-dessus. Le deuxième point, c'est que globalement, là, sur la politique sur laquelle on est et qu'on partage avec Yann un certain nombre d'auteurs et un certain nombre d'éditeurs, c'est de faire du livre numérique pas cher, de faire du livre numérique sans DRM, donc sans système de protection qui vous empêche de passer d'un support à l'autre ou de prêter votre livre numérique. Et par exemple, chez nous, le livre numérique est 25 à 30% du prix papier. Donc si vous avez un livre en papier chez ActuSF qui est, mettons, à 10 euros, il va être à entre 2,49 euros et 2,99 euros chez nous. Donc voilà. Parce que sur les retours qu'on a aujourd'hui, globalement, c'est plutôt ça qui marche que de mettre au même prix. Peut-être qu'effectivement, dans 2 ans, on va se rendre compte qu'on se met le doigt dans l'œil et que tous les gens qui ont des tablettes aiment acheter des livres à 21 euros en numérique, avec des DRM. Peut-être. Mais pour l'instant, on est plutôt sur cette base-là. En plus, il faut bien comprendre que c'est un marché qui est naissant. Aujourd'hui, ça représente à peu près 2% du chiffre d'affaires du livre papier. Donc ça veut dire que, en termes de nombre d'exemplaires vendus, parfois ça devient important, mais globalement, chez nous, par titre, on a entre 5 exemplaires et 130 ou 150 exemplaires pour les best-sellers numériques. Donc si en plus on se coupe une jambe en mettant un prix élevé plus des DRM, il est évident que même les 5 exemplaires, on ne va pas les vendre, quoi. Donc il y a une nécessité un petit peu économique. Et puis le dernier point, c'est ce que disait Yal, c'est la problématique du piratage. Donc il se trouve que depuis 10 ans, on a quand même eu, merci à Dopi, pas mal d'exemples de gens qui étaient vent debout contre le piratage dans d'autres médias que le secteur du livre. Ça arrive au livre. Peut-être qu'on peut ne pas reproduire tout à fait les mêmes erreurs et entamer des dialogues. Alors parfois, évidemment, c'est pas général, et tous les pirates ne sont pas simplement de gentils pirates qui sont tout à fait ouverts au dialogue. Néanmoins, on a peut-être le devoir, ou tout au moins, on peut au moins essayer de trouver des formulations pour discuter avec ces gens-là, et puis pour voir, quoi. Après tout, soit on est complètement contre et on va à la chasse aux sorcières, et on est à peu près sûr de se planter, puisque tout le monde s'est planté avant nous, donc on n'est pas meilleur que les autres. Soit on essaye de comprendre pourquoi et de voir ce qu'on peut faire pour essayer, si ce n'est de le résoudre, mais en tout cas, on tenait un dialogue, quoi. Pourquoi ils le font, ils leur montrer que ça sert à rien, nos livres sont pas chers. Pourquoi ils vont se faire chier alors qu'on fait le boulot, franchement.
Il faut dire aussi qu'actuellement, pour des éditeurs un peu plus importants, il y a un gros problème pour donner le prix d'un livre numérique, parce que ils reçoivent des quasi-menaces sections poche des grands groupes qui expliquent que s'ils pratiquent un prix inférieur à celui du poche, ils n'auront plus la moindre possibilité d'avoir des rééditions poche. Mais pour en revenir au contrat et aux choses comme ça, ce que je voulais dire, c'est la question de la durée du contrat. Tu nous dis, Jérôme, que pour l'instant, on est sur 2-3 ans. Mais est-il vraiment, ne serait-ce qu'éthique, que de faire signer à des auteurs des contrats pour du numérique sur la durée de la propriété intellectuelle? À partir du moment où le livre numérique ne peut pas physiquement, enfin, ne peut pas même virtuellement être épuisé.
Évidemment non. Enfin, tout ça, c'est des discussions, mais soit on se met dans la position d'un grand éditeur comme Gallimarion, comme on l'appelle Amélia, et effectivement, nous avons tout intérêt à exploiter les œuvres des auteurs jusqu'à 70 ans après leur mort. Ça va me faire quelques années quand même, mais voilà. Après, c'est le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. C'est-à-dire que nous sommes de petits éditeurs, donc on n'a pas un fonds extraordinaire, et il est évident que on a besoin des auteurs. Donc, comme Stephen King n'est pas encore tout à fait chez nous, ni Marc Lévy, quel dommage, quand même, ni Bernard W., il est évident qu'on discute avec les auteurs. Donc, c'est une vraie discussion. Donc, On a des gens qui... Alors, quand on discute avec les auteurs, on va prendre le problème inverse. On discute avec les auteurs et on dit, bah voilà, nous on fait du livre numérique et on peut prendre vos ouvrages parce que ça nous plaît bien et qui ne sont pas forcément dans notre catalogue papier, donc en dehors des inédits ou des textes à rééditer. La principale peur du numérique, comme personne ne sait trop où on va, on a des auteurs qui parfois sont un petit peu frileux. Alors il est évident que si on leur dit, et en plus, tu n'auras plus le droit de rien en faire jusqu'à 70 ans après ta mort, ils vont être encore plus frileux. Donc on a trouvé cette solution qui est un petit peu intermédiaire, de se dire, voilà, on se donne rendez-vous un peu dans 2 ans, quoi. Tous les ans, on fait un arrêté des comptes, on voit, et puis dans 2 ans, on voit si ça marche ou pas. Alors c'est par tacite reconduction, parce que le nombre de discussions étant limité, voilà, mais on prend aussi un engagement chez nous, pour les nouvelles, par exemple. Je m'engage à retirer toute nouvelle d'un auteur qui sera en numérique chez nous dans le cas d'un projet papier. L'idée, c'est que si un auteur me confie sa nouvelle et qu'il a un projet de recueil papier chez un autre éditeur que moi, ce qui peut tout très bien se faire, et pas forcément une faute de goût, enfin, je veux dire, c'est la vie, je refuse que mon fichier bloque ce contrat papier. Donc je m'engage à la retirer. C'est ce qui va se passer avec Mélanie Fazi, elle a une nouvelle chez nous, qui a été éditée en 69, on l'a fait en numérique, elle a un projet de recueil papier avec B, appelons B, par exemple, ça termine par Elon. Et évidemment, je vais retirer cette nouvelle de mon catalogue numérique, parce que ce serait quand même ballot. C'est pas simplement de la gentillesse de ma part, c'est aussi mon intérêt. C'est-à-dire, si je veux que les gens me confient des nouvelles à publier en numérique, et que donc je gagne des sous dessus, il faut bien que je sois le plus arrangeant du monde, quoi. Sinon, elle va me dire, le prochain coup, bah, je vais le faire, j'ai peut-être un projet dans 3 ans ou dans 5 ans, donc si c'est pas chez toi, si ça me bloque, c'est pas logique, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Si, t'as bien répondu à la question. J'ai juste rajouté 2-3 détails. Cette pratique qui est des éditeurs indépendants qui consiste à dire effectivement en ce moment on fait un essai et puis on se revoit dans 1 an, on regarde ce que ça a donné dans 2 ans ou dans 3 ans et puis on retouche au besoin, éventuellement on arrête hein, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la façon de faire tourner le truc. Elle est maintenant, elle est de fait, puisqu'elle est dans le code des usages qui vient d'être signé entre le Conseil permanent des écrivains et le syndicat national de l'édition. Salut Vécon. De fait, il y aura une obligation et un rendez-vous à date fixée entre auteur et éditeur pour revoir si effectivement le marché n'a pas évolué et qu'on s'est pas un tout petit peu trompé en ne donnant que 0,003% de droit à l'auteur alors qu'on peut monter facilement jusqu'à 0,1%.
Je fais une parenthèse, hein, on vient de me montrer un contrat d'un éditeur que je connais pas qui propose réellement 1,75% sur la version numérique. C'est classe. Quand on est entre 25 et 50, c'est bien. Il n'y a qu'un 75 sur du numérique, ils ont tout compris.
Oui. Là, c'est vraiment le record. Je n'avais jamais vu aussi bas, mais je dois dire qu'il y a quand même des éditeurs qui sont un petit peu plus cossus que l'éditeur en question. On va même dire qu'ils font partie des 4 premiers groupes français qui, pour leurs auteurs jeunesse, leur proposent allègrement pour le numérique 4%, voire 3% même d'ailleurs chez l'un d'entre eux. Alors que, bah, comme tu l'as dit, on peut, sans se mettre en danger, monter au moins jusqu'à 25%. Voilà, sans se mettre en danger. Après, et c'est pour ça que c'est intéressant de signer, bah, on dit, allez, on signe le contrat, puis on se revoit dans 1 an. Dans 1 an, 1 an après, on regarde et c'est fait ou c'est pas fait. Voilà, mais je voulais juste dire que c'est maintenant sanctifié par la loi, entre guillemets, puisque le code des usages devient, fait force de loi maintenant. Donc, mais il y aura une clause de revoyure. Alors, bien sûr, c'est pas dans 1 an qu'on va se revoir, hein, grâce à ce que nos amis ont négocié. C'est dans 6. 6 ans, je ne vous dis pas. C'est, quand on a vu l'explosion du marché aux États-Unis, je trouve plus le mot. La progression, elle est.
Exponentielle.
Ouais. Ça a été hallucinant. Enfin, aujourd'hui, le numérique le chiffre d'affaires du livre numérique aux États-Unis est supérieur au chiffre d'affaires du livre papier. Papier. Poche. Le chiffre d'affaires du livre poche aux États-Unis s'est effondré totalement. Parce qu'en fait, le seul domaine qui souffre de la concurrence du numérique, ce n'est pas le grand format papier. C'est pour ça que, et puis, de toute façon, ce qui est important quand on achète un grand format, qu'on fait ce choix plutôt que d'acheter un livre de poche, c'est parce qu'on aime l'objet, quoi. Il y a quelque chose, il y a un plaisir à le posséder, à le voir, à le tenir, à le montrer à ses amis. Le livre de poche, par contre, voilà, deuxième lecture, il est à réparer. Alors que le livre de poche s'est effondré. Non, je parlais vraiment, c'est le chiffre d'affaires global de l'édition. Le chiffre d'affaires ne dit pas bénéfice. Hein. Je voulais dire autre chose. Et personne n'est télépathe, bien sûr. Voilà, ça commence par. Hein? Bon, d'accord.
Qui dit livre numérique dit la grande peur à la fois d'un certain nombre d'éditeurs, mais aussi de beaucoup d'auteurs, le piratage. Quel piratage ? Et y a-t-il des solutions contre ce piratage ?
Pardonnez !
Quelles sont-elles ? Est-ce qu'elles doivent s'appliquer à tous les piratages ? De livres ou seulement à certains.
Bon, le piratage, il n'est pas nouveau, on le connaît depuis très longtemps, puisque je ne sais pas combien nous sommes dans la salle à avoir légalement un Word et à en faire l'usage.
Non.
Alors, vous êtes donc deux, vous êtes donc trois. Vous êtes trois. Donc le piratage, on sait très bien, c'est quelque chose qu'on ne peut, parce que Microsoft, c'est pas une toute petite entreprise. Hein. Si elle voulait vraiment intervenir, elle se donnerait les moyens et elle le ferait. Si elle n'arriverait pas à l'empêcher quand même, elle a essayé, il y a eu deux, trois biais, etc. Donc le piratage, on ne peut pas le contourner. Comment peut-on lutter contre ? Par l'éducation déjà, ça paraît une bonne chose, essayer de faire comprendre qu'un auteur, quand il travaille à l'écriture, ben, il fait un travail comme quelqu'un d'autre, comme un boulanger fait son pain. Attention, j'ai commencé à faire des platitudes. Non, alors je vais m'arrêter vite fait. Donc, il y a une éducation à faire sur, effectivement, de la même façon qu'on doit rémunérer. Tout travail mérite salaire. Salaire ou autre forme de rémunération, puisque salaire est éducatif. Il y a une deuxième chose qui est évidente, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plus les prix sont bas, moyen de raison de pirater. Donc il faut reconnaître que quand on a l'impression que c'est quasiment donné, on prend quoi, c'est bien. Puis on achète 10 d'un coup d'ailleurs, parce que ça fait chier de faire une carte bleue pour 2 ou 3 euros, donc on en prend 10, ça fait 20 euros, c'est très très bien. Et je vois une troisième solution qui est assez intéressante, c'est supprimer les ministères de la culture de toute l'Europe. Alors, non, je ne plaisante pas, c'est urgent. Ça devient vraiment urgent parce qu'ils ont institué un truc qui s'appelle qu'on devrait appeler le piratage légal, qui est la loi sur les indisponibles, qui a été votée donc en 2012, dont le décret est passé il y a 15 jours. Cette loi qui fait que, gentiment, grosso modo, l'auteur n'a plus le droit de regard sur son œuvre, pour tous les ouvrages qui ont été publiés avant le 31 décembre 2001. Si un éditeur a envie de le publier, il le fait. Il ne dispose pas des droits sur le numérique, puisqu'il n'y a jamais eu de contrat là-dessus. Voilà. Mais il peut le faire. Donc oui, virons le ministère de la Culture. Demandons-leur aussi, peut-être, ça pourrait aider, de considérer que le domaine public qui existe doit rester public, mais c'est un autre débat.
J'ai juste deux exemples sur le piratage, deux exemples de dialogue. Il y a une première qui me concerne particulièrement, puisque c'est sur un livre avec Roland Wagner, qui s'appelle « Celui qui bat avec les Googlout ». Et un jour, Roland m'envoie un mail en disant « T'as vu, il y a un mec qui, sur un forum, dit clairement « Je viens d'acheter Celui qui bat avec les Googlout » de Roland Wagner. J'aimerais le numériser. Donnez-moi des conseils. » Donc, il y a toute une discussion de gens qui sont bien intentionnés, qui... lui explique comment faire un e-pub. Et donc, du coup, quand l'e-pub est sorti chez nous, à 2 euros, on avait deux solutions. Soit on allait au conflit en disant « c'est mal », sa deuxième qu'on a fait avec Roland, leur a mis un petit mot en disant vous êtes bien embêtés, il existe à 2 euros maintenant. Et on a été plutôt bien accueillis dans le dialogue. Ce qui veut dire que, pour faire le bon et le mauvais pirate, mais, le pirate ça peut être tout à chacun et on peut essayer de dialoguer. Et on doit essayer de dialoguer. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Thomas Géa, qui l'a fait aussi sur. Qui a trouvé un de ses livres piratés. Et qui donc, plutôt que d'aller au conflit, a été discuté. Ils ont trouvé une solution qui est intermédiaire, qui n'est peut-être pas la bonne solution. Mais globalement, il a dit aux gens, voilà, vous avez mon livre entre les mains, vous le distribuez gratuitement, je suis auteur et je ne touche rien. Comment est-ce qu'on peut faire là-dessus? Et donc, il y a une petite boîte aux dons via PayPal qui a été instaurée sur ce site de piratage, sur ce livre-là, ce qui lui a permis de récolter 3 sous. Je n'ai pas la somme exacte, mais...
800 euros,
ce qui est déjà pas mal. Mais ce qui veut dire un deuxième dialogue. Donc, peut-être qu'on peut considérer que tous les pirates ne sont pas forcément des bêtes à chasser via un arsenal répressif, et qu'on peut peut-être essayer de trouver d'autres.
Justement, Yann parlait à un moment donné de la différence entre le piratage commercial et le piratage d'échange.
Oui. C'est très très simple. Enfin, je trouve plus le nom du zozo en question ni de son site. Le plus gros machin, le plus gros site. Non. J'ai dit le plus gros, le méga upload. Voilà.
Méga upload, exactement.
Mega upload, je suis désolé si un jour écoute un des bouquins sur le truc, j'aurais peut-être pas les moyens de les attaquer, parce que de toute façon, manifestement, personne n'a envie de les poursuivre en justice, mais je trouverai certainement un copain corse ou bosniaque qui se fera un plaisir de les rappeler à l'ordre. Non, parce qu'ils vont faire de l'argent sans répartir. Cet argent, ils le touchent de deux façons, soit par la vente directe de l'ouvrage, soit par l'intermédiaire des annonces publicitaires qui fournissent sur leur site. Et là, par contre, je me ferai un plaisir de poursuivre tous les publicistes qui participent à ce genre de travail, et toutes les entreprises qui, par l'intermédiaire d'un publiciste, permettront de faire vivre une ressource économique se privant totalement de l'auteur, du moindre droit. Les autres pirates, qu'on appelle aussi pirates, qui font aussi d'une certaine façon une contrefaçon, ne la font pas de façon commerciale. Voilà, 3 façons en quelques mots, je suis bien. Parce que quand on met à disposition gratuitement, ça s'appelle du prêt. Je me suis battu contre la loi sur le prêt payé en bibliothèque en 2000, avec le droit du cerf. On a perdu, hein, la loi est passée, etc. Donc c'est bien, maintenant on touche des cacahuètes tous les ans. Enfin, les auteurs d'une façon générale, c'est pas vrai. Eric Emmanuel Schmitt, ça va, je suis très content du chèque qu'il reçoit. Moi, je dois bien avouer que c'est un peu l'aumône. Et pendant ce temps-là, ça n'a pas facilité la gestion des bibliothèques. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand on prête un livre, on prête, voilà, c'est tout. Et puis, si, comme la team Alexandris le fait, elle s'arrange pour mettre à disposition un certain nombre d'ouvrages qui aujourd'hui sont indisponibles en papier. Ah, ouais, allez-y, quoi. En ce qui concerne, y a 2 de mes ouvrages qui sont chez eux, parce que je leur ai demandé d'en enlever l'autre. Ils en ont toujours 2. Et quand j'ai demandé, ils ont dit OK, quoi. J'ai fait juste la demande. Et ils en ont gardé d'autres qui sont pas actuellement commercialisés du tout, ni en papier, ni en numérique. Disons que c'était bien de leur filer un fichier propre. Voilà, l'ouvrage est à disposition et je suis sûr qu'il n'y a pas de coquille dedans. Mais il n'y a pas que les auteurs qui ont ce type de relation avec la team Alexandrie. Je voulais dire qu'un certain nombre d'éditeurs préfèrent donner un fichier propre à ce site considéré comme pirate, de façon à ce que le lecteur le lise facilement, un bouquin propre. Pour une fois, Stéphane et Alain, je ne devrais pas sur vous, puisque vous faites partie des gens. Donc Brachelon fait partie des éditeurs qui préfèrent s'assurer que ce qui circule soit de bons fichiers, qu'ils soient piratés ou pas, mais ce qui circule soit de bons fichiers. Et c'est, je trouve, un très beau geste.
Merci.
pour le lecteur.
Autre question qui commence à se poser, j'ai eu des discussions plusieurs fois durant ce week-end. Autres médias, autres formes de lecture, va-t-on aussi trouver une nouvelle écriture, une nouvelle manière de toucher les lecteurs avec ce nouveau format ?
La réponse est immédiatement non. Si on parle de littérature, on parle de littérature. Point. Par contre, si on invente d'autres façons, par l'intermédiaire des tablettes ou des liseuses, un autre média, un autre véhicule culturel, un autre, on lui donnera un autre nom. Mais en aucun cas, ça pourra être de la littérature. Donnons un exemple. On n'a pas gardé le mot théâtre pour le cinéma, quoi. L'audiovisuel est devenu un art à part entière qui s'est mis à exister. Ben, c'est récent, hein. Les Frères Lumière, ils n'ont pas. C'était il y a 15 jours, ils m'appelaient encore, ils me disaient tiens, on est toujours mort, comment ça se passe? Et je leur dis le théâtre continue à exister, bien que vous ayez inventé le cinéma. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes modes de consommation, ce n'est pas, pas les mêmes taux de rémunération aussi pour les différents acteurs qui sont dedans. Donc voilà. Alors, on parle maintenant, merci Madame Filippetti, on parle maintenant de livres augmentés pour en fait quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la littérature. On fait un objet multimédia qui met du son, qui balance de la lumière, qui balance des images, qui bientôt il pourra péter. Si, ça peut être drôle quand même. On peut assez facilement équiper une liseuse avec une clé USB. Il existe, vous ne connaissez pas ça en fait. Il y a des diffuseurs d'essences essentielles, d'huiles essentielles, en clé USB qu'on peut connecter à un ordinateur, etc. Donc on pourra très bien diffuser les odeurs du livre. Ça va être super sympa dans les trains. Oui, tu rentres du boulot le soir, t'es crevé, et t'as un mec qui est en train de lire, allez, le Marquis de Sade à côté de toi. En odorama.
Voilà. Avec les fouets qui claquent. Je ne sais pas si ça change. Enfin, ça ne change pas la manière d'écrire. Néanmoins, ce qui est très agréable avec le livre numérique, c'est la grande liberté qu'on peut avoir. En papier, pour des contraintes économiques, on a un certain nombre de pages, donc un certain nombre de volumes textuels à respecter, parce que sinon, voilà. On peut se permettre, en livre numérique, d'apparier deux nouvelles qui ont un même thème et de faire un diptyque. Même si en papier, chez nous, elle ferait 60 pages et qu'elle serait donc commercialement pas rentable ni très envisageable. Ça nous donne une grande liberté de ce côté-là. On bosse avec des auteurs qui vont nous confier ou qui vont nous écrire des inédits spécialement, mais assez courts. Et on est là dans le cadre quand même de l'expérimentation. Hein. On est bien d'accord avec cet auteur-là. On s'est mis d'accord parce que c'est une envie de sa part. On va en faire deux ou trois, puis on verra comment ça marche. Parce que c'est aussi une question de marché, entre guillemets. Si on en vend 200, 300, 400, et que donc ça devient rentable pour lui, c'est-à-dire qu'il touche un chèque assez confortable, oui. Si on en vend 15, il va me dire on arrête, et je ne pourrai que le comprendre, quoi. Donc voilà. Donc on est encore sur le stade de l'expérimentation. Il faut voir qu'il y a un certain nombre de contraintes économiques liées à ce marché du livre numérique qui fait que ça nous contraint aussi un petit peu dans ce qu'on peut faire en numérique. Par exemple, c'est difficile d'acheter des droits et de faire traduire un texte en numérique. Parce que du coup, il y a des frais de traduction qu'on ne peut pas absorber avec les ventes. Enfin, là, c'est pareil pour les illustrations. Pour parler des illustrations en livre numérique, c'est difficile d'acheter une illustration originale pour un livre numérique parce que là aussi, on serait pas rentable, de la même manière que l'auteur touche un pourcentage, mais autant on peut donner un avaloir, c'est-à-dire une avance sur ce pourcentage en papier, autant en livre numérique, malheureusement pour l'instant c'est pas encore possible.
Je vais rajouter deux choses. Une première, donc on commence à voir les premiers avaloirs sur les livres numériques, essentiellement parce qu'ils sont liés aussi à un contrat papier. Mais l'éditeur, enfin c'est en l'occurrence le cas du mien, s'il décide par exemple de me donner 15 000 euros d'avaloir pour le papier, il va rajouter 5 000 € ou 10 000 € d'avaloir pour le numérique. Bon, il est très courageux hein, quand même, hein, mais moi j'ai vraiment beaucoup de bol. Mais il y a d'autres façons de travailler le numérique. On peut le travailler. Ce qu'on est en train de faire, par exemple avec le Diable Vauvert, Pierre Bordage fait une expérience de son côté, je fais une expérience de la mienne, c'était retrouver le principe du feuilletonisme, du feuilleton. Donc Pierre Bordage va sortir un bouquin à raison de 3 épisodes par semaine, va faire 3 épisodes par semaine pendant je ne sais plus combien de mois, mais c'est une assez longue expérience pour retrouver un petit peu le principe des feuilletonistes du 19e siècle. Moi, je vais travailler sur quelque chose qui finira en roman, mais je suis parti sur le point. Non, Pierre Bordage, le principe de base, c'était entre un quart d'heure et 20 minutes de lecture. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose parce qu'il faut tester ça sur le principe de la série télévisée américaine, entre 40 et 45 minutes de lecture. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça l'est pas, peut-être. Peut-être qu'il faut se contenter de faire du bouquin.
Depuis 2 ans, presque, on assiste à une vaste entreprise de destruction du droit d'auteur, que ce soit par la loi sur la numérisation des textes indisponibles du XXe siècle, la mission Sirinelli sur... un changement dans le code de la propriété intellectuelle et dans le code des usages, et la mission Lescure pour continuer à trouver des solutions par rapport au droit d'auteur, par rapport aux pratiques, aux nouvelles pratiques qui devraient, selon eux, se mettre en place pour protéger les auteurs, lutter contre le piratage et ce genre de choses, et faire des sous. En tant que porte-parole du droit du cerf, Yael a assisté à un certain nombre de rencontres avec le ministère, le Sénat et différentes missions. Tu peux en dire quelques mots?
Oui. C'est très compliqué parce qu'il faudrait réexpliquer toutes ces choses qui passent et qui nous sont présentées très différemment dans les médias que ce qu'elles sont dans la réalité. Il est vrai que la loi sur les indisponibles, dont j'ai touché quelques mots tout à l'heure, c'est introduire un nombre d'exceptions dans le code de la propriété intellectuelle qui sont toutes des façons de capter les droits d'auteur pour les redistribuer. Entre guillemets, enfin non pas à, pour arrêter avec ça, entre guillemets, pour les redistribuer en partie à l'éditeur et en partie à ce qu'on prétend être la société publique, l'usager, vous, moi, le lecteur, quoi. Mais bon, ça se passe pas du tout comme ça, évidemment. La mission Sirinelli, c'est autre chose. C'était dans le cadre de cette révolution numérique qui fait qu'on va... le papier ne disparaîtra pas, bien entendu, mais le numérique va être de plus en plus l'outil de lecture le plus important. C'est aussi, rappelons, une tablette, par exemple, c'est un outil merveilleux pour remplacer un cartable de 7, 8, 10, 12 kilos. Il y a de très gros marchés, il y a énormément d'argent en jeu. Et donc la mission Sirinelli, son travail, c'était de faire que les auteurs et les éditeurs s'assoient autour d'une table et tombent d'accord sur un certain nombre de pratiques, d'usages de ça. Inutile de dire que bien sûr ils sont tombés d'accord, parce qu'il y avait une grosse menace très très lourde sur leur tête, c'était si vous n'y arrivez pas, salut Aurélie, c'est Philippe Petty qui va décider toute seule de ce que sera la loi. Voilà. Et il y a une nuance très très forte entre un accord intersyndical, on va dire, interprofessionnel, on va dire, et puis une décision ministérielle, c'est que d'un côté ça devient une loi, enfin je veux dire un accord, comme ça entre parties on peut le rompre, on peut le renégocier, on en fait à peu près ce qu'on veut. Quand c'est le ministère qui tranche, c'est une loi. Donc finalement le SNE, donc les représentants des syndicats, des auteurs et des éditeurs, se sont entendus pour signer un accord qui, pour une fois, est un peu plus favorable aux auteurs que ce qui précédait. un petit peu plus, avec quelques virgules quand même, mais bon, on va pas aller plus loin. La mission Lescure, elle, c'est encore plus compliqué, puisque la littérature est là-dedans, la dernière roue de la charrette. Ce qui est assez étonnant quand on est français, puisque la littérature est le premier, comment on dit, ça représente le premier chiffre d'affaires culturel en France. C'est assez aberrant, hein, qu'on s'en dise, mais c'est pas possible, tous les disques, tous les DVD, tous les trucs, et bien tous ces machins-là, figurez-vous que ça vient essentiellement des États-Unis, et que donc ça ne touche absolument pas le chiffre d'affaires culturel français. Mais on va quand même faire une loi en France qui va prolonger ou modifier ou remplacer tout ce qui est Adopi pour protéger les droits, pour protéger les revenus des grosses entreprises financières, ou pas d'ailleurs, enfin des producteurs américains ou japonais. Donc nous, on les a rencontrés tous. Chaque fois, on nous a demandé, ben, vous pensez quoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, qu'est-ce qui serait bien, et on l'a dit, quoi. Voilà, on l'a dit. Et puis, nous a-t-on entendu? Alors, la réponse pour dans un sens certain, dans un au moins un cas, c'est non, pas du tout. Alors oui, ça, c'est le cas de la loi sur les indisponibles. On peut dire qu'on n'a absolument pas entendu, quoi. Jérôme,